matin, je veux commencer une série de deux séries. D'ailleurs, je vais juste vous dire ceci, je n'ai pas terminé sur le thème qui était le chemin divin. Il y a une dernière chose ou une ou deux dernières choses que je vais toucher au niveau de cette série-là. Mais il y avait certaines affaires qui, pour moi, venaient dans le temps où on a besoin de faire les choses. Et deux probablement prédications qui est là d'abord et avant tout dans ma pensée, qui est sur une rencontre qui transforme. Alors, on va voir deux choses à travers une rencontre qui transforme. Ce matin, on va voir dans la personne de Jésus-Christ cette transformation, ce changement qui prend place à l'intérieur de nos vies à travers notre relation avec Jésus-Christ. Pas la semaine prochaine, mais l'autre, on devrait parler sur une rencontre et je vais parler sur le Saint-Esprit, cette rencontre-là avec le Saint-Esprit. Et comment Jésus est celui qui a mis les choses en place pour que les disciples puissent avoir une rencontre avec le Saint-Esprit à la chambre haute. Il y a certaines choses qui est venu sur mon cœur à travers cette pensée-là ou ces deux prédications-là sur une rencontre qui transforme. Et comment Jésus est celui qui a fait qu'à travers ces rencontres-là et le Saint-Esprit avec le jour de la Pentecôte, vraiment le Seigneur a fait une œuvre et le Saint-Esprit a fait une œuvre que ces gens ont été complètement changés et transformés. Alors Seigneur, ce matin, je prie que tu puisses venir cette parole à nos cœurs. Puisses-tu m'inspirer, Seigneur, vraiment ta pensée à travers tout ce qui a été déployé dans mon cœur, Seigneur, pour ce matin. Que Dieu, tu puisses nous parler à chacun d'entre nous, que ton esprit ne puisse pas seulement être au milieu de nous pour me donner d'être capable d'accomplir, Seigneur, ou de partager ce qu'il y a sur mon cœur ce matin, mais que ton esprit puisse nous donner de recevoir cette parole, qu'elle pénètre dans nos vies et qu'elle nous donne le goût de continuer d'avoir cette intimité, cette relation avec toi. C'est au nom de Jésus, Père, que nous prions. Amen et amen. Une rencontre qui transforme. Probablement, chacun d'entre nous, on a rencontré des gens qui ont influencé de quelque façon, de bonne ou de moins bonne façon, de façon positive ou de façon négative à l'intérieur de nos vies. Mais ce matin, j'aimerais nous parler, alléluia, de quelqu'un, d'une personne qui n'a pas seulement influencé les vies, non pas seulement influencé les personnes, mais qui a littéralement changé la vie de ces gens, qui a littéralement transformé la vie de ces personnes. Bien sûr, non seulement cela a été vrai pour quelques personnes, mais cela a été vrai pour des dizaines de personnes, des centaines et même des milliers de vies ont été changées. Même après sa mort et sa résurrection, il est celui qui, lorsque des gens avaient cette rencontre avec lui, leurs vies ont été changées. Alléluia. L'apôtre Paul, dans cette rencontre avec Dieu, leur vie, sa vie a été changée. Lorsque ces hommes ou ces femmes dans la parole de Dieu après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, leurs vies vont être changées par cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et nous avons, chacun d'entre nous probablement qui sont ici ce matin, nos vies ont été changées. Nos vies ont été transformées, que lorsqu'on a eu cette rencontre initiale avec le Seigneur, nos vies ont été, n'ont plus jamais été les mêmes. Et j'aimerais nous dire qu'encore aujourd'hui, il doit y avoir cette transformation par cette rencontre. C'est pas seulement un moment où les choses se sont faites, mais je pense que les disciples, à la lumière de ce qu'ils ont été avec Jésus, de ce qu'ils ont eu cette rencontre de façon, je dirais, quotidienne avec le Seigneur Jésus, leurs vies ont été totalement changées et transformées. Et bien sûr, la parole de Dieu nous encourage de s'approcher de lui. Dans le texte de Jacques, chapitre 4, verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il y a une invitation de la part de Dieu à s'approcher de lui. Il y a une dimension, mais en même temps, on doit comprendre qu'il y a, bien sûr, Dieu veut venir, veut s'approcher de nous, mais il doit y avoir une part de nous qui veut marcher, qui veut s'approcher de la part du Seigneur. Je vais vous dire ceci, bien des gens ont côtoyé Jésus-Christ, bien des gens ont côtoyé le Seigneur, bien des gens ont été en relation avec Jésus, mais je vais vous dire que ce n'est pas tous les gens dont leur vie ont été changées. Ceux dont leur vie ont été changées, ce sont ceux qui se sont approchés de lui. Par exemple, il y a cette histoire, on va le voir tantôt, je vais faire une référence à ça, à cette femme qui avait la perte de sang, qui va venir, qui va toucher le bord du vêtement de Jésus et sa vie va être complètement changée et transformée. Pourtant, Jésus va dire, qui m'a touché? Les disciples vont dire, Jésus, il y a une foule qui te presse. Il y a plein de gens qui te touchent. Mais Jésus dit, il y a une personne dont sa vie a été changée, dont sa vie a été transformée. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, ça dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Il y a une dimension dans ce texte qui dit que des fois, et peut-être qu'on a vécu du rejet dans nos vies, des situations, des personnes qui nous ont cassés, des personnes qui nous ont rejetés. Peut-être que cela a été vrai lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ. Nos vies, des gens nous ont rejetés, nous ont abandonnés. Peut-être que cela est davantage vrai dans certaines parties du monde où des gens, alléluia, ont vécu le rejet, même la persécution, parce qu'ils avaient donné leur vie au Seigneur, parce qu'ils avaient eu cette rencontre avec Dieu. Et mais dans le texte ici qu'il est dit, ça dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. J'espère que ce matin, il y a cette dimension, qu'il y a le désir, que même on a été appelé, qu'on a été choisi. Et bien sûr, chaque personne, il y a un désir dans le cœur de Dieu. La Bible va dire que Dieu veut que tous viennent à la repentance. Lorsque je regarde l'humanité, lorsque je regarde les gens dans ma ville, dans l'environnement dans lequel on peut être, j'ai dans mon cœur cette pensée que Dieu, alléluia, a un appel sur leur vie à avoir une rencontre, une intimité, à ce qu'ils s'approchent de la part de Dieu. Et lorsqu'on regarde cela, alléluia, on découvre comment l'accessibilité de Jésus à travers tout le Nouveau Testament. Vous savez, les disciples n'étaient pas de ceux qui surveillaient afin que les gens ne puissent pas approcher Jésus. Ce n'était pas des gens qui étaient là pour surveiller, pour empêcher. Mais alléluia, la Bible nous montre qu'au contraire, Jésus était une personne qui était accessible, où les gens avaient la possibilité de venir et de simplement toucher le bord de son vêtement, comme cette femme avec cette perte de sang. On pense aux lépreux dans la parole de Dieu qui sont venus et que Jésus a été atteignable, qu'ils ont pu venir vers Jésus. On peut penser, alléluia, à cet homme qui a été déposé, dont les gens, les quatre hommes ont enlevé le toit et ont descendu du cet homme auprès de Jésus. Jésus avait cette accessibilité. On pense dans la parole aux enfants, alors que lorsque les enfants vont venir, les gens vont essayer de les tasser, même les disciples vont essayer de simplement faire qu'ils ne dérangent pas le maître, ne dérangent pas Jésus. Puis Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Des gens que les êtres humains regardaient avec un certain mépris, je dirais même avec un certain dédain, Jésus permettait à ces personnes-là de venir, alléluia, et d'être capable de prendre un temps avec elles, de prendre un temps avec ces personnes-là. On pense à cette femme qui va venir, qui va pleurer sur les pieds de Jésus, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis l'homme qui est là regarde cette femme avec mépris, mais Jésus, alléluia, avec honneur, reçoit cette femme-là à ses pieds. Parce qu'on regarde dans la parole de Dieu, alléluia, on a la possibilité de pouvoir s'approcher. Et je me dis, ce qui était vrai pour eux est aussi vrai pour moi. Je me dis, ce qui était vrai pour ces personnes est aussi vrai pour ma vie. Et si c'est vrai pour leur vie, c'est vrai aussi pour leur vie. Trop souvent, on oublie ou encore on s'éloigne ou on pense qu'on n'est pas digne de venir devant le Seigneur. Mais en fait, il y a cette possibilité de venir et de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Approche-toi, mon frère, ma sœur du Seigneur. Approchons-nous de Dieu, le texte dit. Et on a besoin de cela. Et c'est le désir du Seigneur. Il y a un texte, une pensée, une histoire qui est réelle, qui est là, qui est arrivée dans le Nouveau Testament avec Jésus. Et c'est le texte avec Zachée dans la parole de Dieu. Il y a quelque chose de super intéressant dans ce texte-là avec cet homme. Le texte dit, nous donne de voir que Jésus, dans Luc chapitre 19, le verset 1, que Jésus était entré dans Jéricho et qu'il était en train de traverser la ville. Et encore, dans tous les cas, et vous allez remarquer souvent dans la parole de Dieu que lorsque Jésus entrait ou arrivait à un endroit, Il y avait une foule qui était là. D'ailleurs, dans les textes dans lesquels j'ai choisi ce matin, souvent la foule en est inclus. Souvent, il y a plein de gens autour de Jésus-Christ. Souvent, il y a plein de personnes qui sont là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cette foule-là, il y a des individus, des personnes dont leur vie ont été transformées. Bien sûr, Jésus a changé par son enseignement, a changé par des miracles, a changé par la communion qu'il avait avec les gens, a influencé, a changé la vie de multitudes de personnes. Mais alors que des foules qui sont là, Jésus va prendre le temps de changer, alléluia, d'avoir un impact dans la vie de cette personne-là. Et savez-vous ce qui m'encourage? C'est que dans cette foule, ça peut être moi. Que dans cette foule, ça peut être toi, mon frère, ma sœur. Que dans cette foule, alléluia, dans laquelle on regarde ce matin avec Zachée, ça dit que Jésus est entré dans Jéricho, était en train de traverser la ville, et il y avait plein de monde qui était là, et ça dit au verset 2, « Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. » Alors, rien ne l'avantageait dans le fait de voir Jésus. Ça dit, « Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. » Parce qu'il devait passer par là. Verset 5, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » J'aimerais nous dire ce matin que lorsqu'on regarde ce texte-là, Jésus ne passe pas là par là par hasard. Alors on peut se poser, est-ce que Jésus est juste en train de passer, puis par hasard, Lazare se retrouve sur son chemin? Je ne pense pas que Jésus passe là par hasard. Je pense que Jésus, alléluia, c'était un moment dans l'agenda de Dieu pour un moment divin pour Zachée. C'était un moment divin pour cet homme qui semblait pas le connaître. On peut juste imaginer l'histoire qui nous est racontée ici. Alors qu'il se retrouve dans ce texte-là, Zachée sait ou a entendu parler que Jésus était en train de traverser la ville. C'est un homme de petite taille. Il y avait une foule qui était là. Et le texte dit, pour le voir, il a couru en avant, il a passé au travers de la foule. Il est allé en avant. Et probablement là, le texte dit qu'il y avait un sycomore qui était là. Et alors qu'il était, il a monté dans cet arbre-là. Il a monté dans cet arbre-là pour voir Jésus passer. Mais que lorsque Jésus est arrivé, Jésus n'a pas simplement passé pour aller pour continuer et se rendre. Mais le texte dit, c'est intéressant, le texte dit, alléluia, que cet homme-là a couru en avant pour voir Jésus. Pour voir Jésus. Dans cette expression, ça, dans le texte, la pensée du texte, c'est pas une idée de curiosité. Dans le texte, dans la pensée du texte, c'est pas quelqu'un qui est curieux de voir quelqu'un. Okay? Zachée, c'est pas en allant en avant pour dire, ben, je vais voir enfin ce qu'il a l'air. Comment, c'est quelle tunique qu'il a? C'est-tu marqué Nike sur sa tunique? Il est pas allé pour voir par curiosité, mais dans la pensée du texte, c'est qu'il avait entendu que Jésus venait, qu'il passerait par là, et à ce moment-là, il y avait comme une dimension dans son cœur qui était là pour voir Jésus, pour découvrir qui était ce Messie, ce roi, ce Seigneur des Seigneurs. Et il y a dans la dimension qui est là un sens probablement dans le cœur de Zachée, d'un besoin qu'il y ait quelque chose qui soit rempli à l'intérieur de sa vie. C'est un homme riche. C'est un homme qui était important. C'est un homme qui dirigeait des gens. Et dans le texte qui est là, il est dit aujourd'hui, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a, dans le verset 5, il y a certaines choses que je veux m'arrêter dans le verset 5. Il y a quelque chose que le texte dit juste auparavant. Ça dit que Zachée ne connaissait pas vraiment Jésus. Mais c'est intéressant parce que dans le texte, alors qu'il y a une foule qui est là, Jésus arrive au pied de l'arbre, et alors qu'il arrive là, au pied de l'arbre, peu importe, il lève les yeux, puis il y a Zachée qui est là. Jésus savait que Zachée était là. Et c'est intéressant parce que il va dire à Zachée, il va l'appeler par son prénom. Je me dis, comment ça Jésus semblait-il connaître le nom de Zachée? alors que Zachée ne semblait pas nécessairement connaître Jésus. On ne sait pas de quelque façon, je ne veux pas aller dans toutes sortes de dimensions, mais je veux juste mentionner une certitude, qu'il y a une dimension dans le cœur de Jésus qui connaît cet homme. Que Jésus savait qui était Zachée. Alléluia, que Zachée était celui qui était là. Et j'aimerais nous dire ceci, non seulement Jésus savait quel était le nom de Zachée, mais Jésus connaissait cet homme. Jésus connaissait bien qui était cet homme. Et vous savez, dans la foule de ce qui se prend en place, mettons-nous dans la scène un peu de ce qui est là, il y a Zachée qui est dans le sycomore, qui est un petit homme, qui semble être un homme qui est connu. Zachée, je veux juste vous dire ceci pour notre information, c'était dans la position dans laquelle Zachée était, de direction, dans la reconnaissance, dans la société, c'était pas nécessairement bien vu que Zachée passe en avant et monte dans un sycomore. Qui passe en avant, peut-être, mais monter dans un sycomore, c'était pas nécessairement quelque chose qu'un homme honorable faisait devant une foule. Et lorsqu'il l'a fait, Jésus connaissait bien, alléluia, l'homme en lui-même, pas seulement son nom. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, que Dieu te connaît bien. Dans le texte, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'au verset 7, ça dit que les gens semblaient connaître cet homme-là, savaient qu'il était quelqu'un qui percevait l'impôt. Et ça dit que quand Jésus a parlé à cet homme, ça dit au verset 7, voyant cela, tous murmuraient, pas une, pas deux personnes, mais tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. En fait, cette parole-là était dite d'une dimension avec mépris. Il y avait probablement des gens, d'autres juifs, des pharisiens, on ne sait pas, le texte ne révèle pas comment tout était là, de qui était là, mais tout de suite, dans la pensée du monde qui l'environnait, le mépris a pris place envers Zachée, et je dirais même jusqu'à un certain point, envers Jésus, dans le fait que Jésus est en train d'aller chez cet homme. Parce que d'aller chez lui, ça avait une signification d'accueil, mais aussi d'être prêt dans le texte. C'est Jésus qui va aller vers cet homme. Mais alléluia, c'est cet homme qui avait été pour voir Jésus. Il a fait un pas et Jésus, alléluia, est allé jusque chez lui. J'aimerais nous dire que si on est prêt à s'approcher de Dieu, Dieu ira plus loin avec toi que tout ce que tu peux imaginer à l'intérieur de ta vie, qui t'amènera là où tu veux. Et le mépris a pris place dans le cœur de ces hommes. Et des fois, les gens peuvent nous regarder avec un certain mépris. Peut-être que des gens autour de toi, ta famille, des personnes, ont regardé ta vie avec mépris. Peut-être que des gens ont dit des choses à ton égard, qui t'ont abaissé. Peut-être qu'ils n'ont pas compris qui était. Et en fait, cet homme-là était un percepteur d'impôts. Puis les percepteurs d'impôts, c'était pas des gens bien vus. C'était vu souvent comme des voleurs, des gens qui percevaient plus d'impôts pour la garder. Et non seulement cet homme-là était un percepteur d'impôts, mais il était le chef, c'était celui qui donnait l'ordre pour que les choses se fassent. Alors, tu es encore moins bien vu. Et cet homme-là, c'était qui? C'était un homme, Zachée, qui était riche. Alors, quand les gens voyaient sa richesse, qu'est-ce que les gens pensaient? Il a fraudé, il a volé, il a fait des choses malhonnêtes. Et à travers ça, le mépris prend place. Mais j'aimerais nous dire ceci, il y a un texte qui est tellement réconfortant dans l'Évangile de Jean, qui nous parle de Jésus. Mais ça dit, Jésus n'ayant pas confiance en eux, parce qu'il les connaît tous, il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Et là, je suis en train de lire la traduction de la parole de vie. Ça dit dans le texte, alléluia, qu'il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Parce que lui, il les connaît bien. Jésus savait qui était Zachée, connaissait le cœur de cet homme-là. D'ailleurs, je ne vais pas prendre le temps, mais Zachée va mentionner une dimension que quand il fait tort à quelqu'un, il donne le double et tout ça. Il est en train de mentionner qu'il y a une grande part de sa richesse qui est pour faire du bien autour de lui. Je ne sais pas s'il dit ça à cause de ce que les gens semblaient dire, le murmure qui semblait prendre place à son égard, puis lui voulait un peu se justifier. En tant qu'être humain, c'est majoritairement ce que l'on fait. On a la tendance de vouloir se justifier, mais peu importe, Peut-être qu'il le faisait pour dire à Jésus, « J'essaie de faire de mon mieux, Jésus. Je suis pas parfait, je suis pas le meilleur, mais j'essaie de faire quelque chose. » Peut-être qu'il le faisait. Le texte ne le révèle pas dans toute la dimension. On peut supposer certaines affaires. Mais je voulais plutôt qu'on comprenne que Dieu sait qui tu es aujourd'hui, que Jésus sait, connaît bien ton cœur, que Dieu connaît beaucoup plus qui tu es que tout ce que le monde, les gens, que même ton mari, ton époux, ton épouse, que les personnes tout autour, tes enfants, tes parents, qui peuvent connaître et savoir ce qui tu es aujourd'hui, ce que tu es dans ton cœur. Dieu te connaît bien. Bien sûr, alléluia, cet homme-là, Jésus va dire au verset, Luc chapitre 19, le verset 10, ça dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En fait, Zachée n'était pas parfait. Et Jésus venait pour faire une action dans la vie de cet homme-là. Un homme pécheur ne doit pas s'entendre au sens général, dans le sens de, il devait faire, dans le sens bien sûr qu'il était pécheur, mais dans la dimension qui était là, de la pensée des gens, ça faisait davantage référence à son travail et à ses accomplissements terrestres que ce qu'il était. Mais la réalité, c'est que cet homme avait, alléluia, un cœur pécheur. C'était un homme pécheur à ce moment-là. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, alléluia, on parle peu de péché, on ne parle plus de péché. Mais ce qui est intéressant dans le texte qui est là, c'est que Jésus n'a pas la dimension de ce que les gens murmuraient, mais plutôt la dimension d'amener le salut dans la maison de Zachée. Je vais vous dire ceci, que lorsqu'on est prêt à simplement venir demander pardon au Seigneur, c'est pas la culpabilité ou la condamnation, mais le pardon qui prend place. Quand c'est dit dans le texte « aujourd'hui », c'est maintenant, c'est un mot qui est, ou la parole de Dieu dans ce texte-là, c'est maintenant, aujourd'hui. Alors quand tu regardes ça, il dit « aujourd'hui », il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose que c'est maintenant. Il y a quelque chose qui doit prendre place. Et il y a deux choses pour lesquelles Jésus fait référence dans ce texte-là. C'est aujourd'hui que ça doit se passer, Zachée. Il y a maintenant cette rencontre avec toi. C'est aujourd'hui, Zachée. C'est pas demain. C'est pas la semaine prochaine. C'est maintenant que le salut est entré dans ta maison. Et dans le Luc chapitre 19, le verset 9, ça dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est important de réaliser ce que Jésus est en train de dire ici. C'est tellement une conception qui n'est pas humaine, ce que Jésus est en train de dire. Je vais vous dire, peuple de Dieu, que ce que Jésus est en train de dire, c'est contraire à la tendance humaine. La tendance humaine est de se cacher. C'est ce qui va se passer avec Adam et Ève. Quand ils vont chuter, Dieu va être dans le jardin d'Éden, va les appeler, et la tendance humaine, c'est de se cacher, c'est de ne pas laisser voir. Et probablement, dans la dimension qui est là, c'est vraiment, tu dis, bon, Jésus aurait pu prendre Lazare à part avant de dire certaines choses, mais il y a vraiment une dimension qui prend place de façon publique, mais où Jésus s'adresse avec cet homme. Il dit, aujourd'hui, c'est maintenant. Et lorsqu'on est prêt à regarder et à réaliser, il y a le salut, il dit, le salut, la délivrance du péché de la mort dans ta vie, Zachée. Alléluia. Et maintenant, celui qui peut te délivrer, maintenant entrer dans ta maison pour te sauver. Il y a vraiment une dimension où Jésus est en train d'amener Zachée, bien sûr, à comprendre le fait qu'il peut recevoir le pardon. Pas la condamnation. Le murmure en était un de condamnation. Probablement, l'être humain a cette tendance-là parce que à la base même d'Adam et Ève, c'est qui a pris place. Chacun d'entre nous, la dimension, faites juste regarder un peu nos vies, quand on sait qu'on a déplu à Dieu, notre première réaction, c'est de se cacher un peu. C'est de justifier un peu. Vous savez, la justification, c'est la feuille de vigne. D'ailleurs. Le pardon, c'est l'habit de peau que Dieu a fait pour Adam et Ève. Et trop souvent, on est dans la feuille de vigne. Trop souvent, on est sur cette feuille qu'on prend, qu'on essaie juste de cacher les choses. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin, littéralement, d'avoir cette rencontre avec le Seigneur et de réaliser que dans cette rencontre, il y a le pardon. La rencontre de Zachée avec Jésus était dans une dimension d'amener le pardon dans la vie de cet homme. Et la deuxième chose qui est importante, c'est il faut. Il y a une nécessité que j'aille dans ta maison. Je vais vous dire que la rencontre avec Dieu, elle est nécessaire pour nos vies, pour nos enfants. Je viens d'ailleurs en parler aux jeunes familles. Il y a une nécessité que nos enfants vivent une rencontre avec Dieu. Que s'ils ne vivent pas cette rencontre et que cette rencontre amène un attachement au Seigneur, nos enfants sont en danger de ce qui abandonne Dieu, de ce qui délaisse le Seigneur. Et on a besoin de réaliser pour nos propres vies à nous-mêmes que l'on a cette relation, cette rencontre. Il dit aujourd'hui, il faut, Zachée, c'est une nécessité. C'est pas un « ça nous fait du bien », c'est pas juste un privilège. Je vais vous dire ceci, une rencontre avec Dieu, souvent nous on le voit comme un privilège et ça n'en est un, mais j'aimerais nous dire que davantage, c'est une nécessité d'une relation, d'une rencontre avec Dieu. Parce que cette rencontre-là est celle souvent qui va changer les vies, qui va transformer les vies. J'aimerais nous dire que ces rencontres-là avec le Seigneur, c'est souvent la seule chose qui peut faire une différence. Cela était vrai dans la vie de Zachée, mais cela était vrai aussi dans la femme, avec la femme qui avait la perte de sang. Luc chapitre 8, verset 43, dit que cette femme, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et ça dit, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Je vais vous dire ceci, est-ce que c'est parce que les médecins n'étaient pas bons? La réponse est non. C'est juste que le besoin de cette femme-là était plus grand que ce qui était humain. Et il y a des choses dans nos vies où la rencontre a besoin d'être plus grande que ce qui est humain. A besoin d'être plus grande que cette rencontre-là avec Dieu nous donne de rencontrer quelqu'un. Alléluia, qui est plus qu'humain. Quand les disciples vont s'en aller au temple après la résurrection de Jésus-Christ, il va voir cet homme-là qui est là. Il dit, cet homme-là mendiait. Et les apôtres vont dire, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas ce que je pourrais te donner même en tant qu'être humain. Je voudrais te donner un peu d'argent, mais on n'en a pas d'argent. Mais il dit, ce que j'ai est plus grand que ce qui est humain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme-là va avoir une rencontre avec les disciples qui, eux, vont leur faire rencontrer Jésus, qui va changer, qui va transformer la vie de cet homme. Dans cette multitude dans laquelle cette femme était, Jésus, elle va avoir une rencontre avec Jésus, une rencontre qui va donner que l'impossible va être changé en quelque chose de possible. Parce que tout est possible dans une rencontre avec Dieu. Je vous dis que le moment où il y a une intimité, une rencontre avec Dieu, que ce soit à l'église comme ce matin, que ce soit dans ton temps de prière à la maison, dans ta relation personnelle, de prier avec une autre personne. Je vais vous dire ceci, que tous ces moments sont des moments pour une rencontre avec Dieu où le miracle peut prendre place. Alléluia, où l'impossibilité peut être devenue maintenant possible parce que Dieu, dans cette rencontre avec lui, le Seigneur est celui qui change les choses. Et il ne faut pas seulement changer les corps, mais il ne fera pas seulement changer le corps de cette femme-là, c'est-à-dire la guérir dans son corps. Il va s'adresser à elle, va parler avec elle, va prendre le temps alors qu'il y a un enfant qui va mourir, qui va venir. Vous pourrez lire l'histoire dans tout le texte de Luc chapitre 8. Mais dans cette situation-là, Jésus va prendre le temps. Vous savez ceci? Ce texte-là nous apprend quelque chose de tellement important. Vous savez, quand tu regardes, vous relirez à la maison, je vous encourage à le lire avec cette perception que je suis en train de parler ici. Il y a un homme qui vient vers Jésus, qui va dire, Jésus, mon enfant est malade, viens, il est à l'article de la mort, viens à la maison. Jésus va partir avec cet homme-là, puis alors qu'il s'en va en chemin, il y a cette femme avec cette perte de sang qui va venir, qui va toucher le bord de son vêtement, qui va être guérie. Et Jésus va s'arrêter, il va dire, qui m'a touché? Il me semble si j'aurais été lui, là, j'aurais juste dit, il faut que je m'en aille chez cet homme-là, vite, là. Parce que son enfant est malade, elle va mourir. Ça a été vrai avec Lazare. Ça a été vrai. Jésus n'a pas précipité les choses. Il a pris le temps pour les choses. Nous, si vous êtes comme moi, on est souvent à la course. Jésus a pris le temps. Pourquoi? Parce que Jésus, cette femme-là, qui est allée jusqu'à Jésus pour toucher le port de son vêtement, si elle avait été prête à s'avancer jusqu'à lui, pour s'approcher de lui, Jésus serait prêt à s'approcher d'elle, de prendre le temps pour s'approcher d'elle. Jésus va prendre le temps, il va s'arrêter, il va dire « qui m'a touché? » Il va directement s'adresser avec cette femme. Je ne veux pas prendre tout le temps ce matin pour ça, mais il va briser une pensée qui est probablement dans son cœur d'indignité, d'une certaine malédiction, parce qu'une femme qui avait une perte de sang, c'était quelqu'un qui était vu sous une malédiction, qui était vu impur de la part de Dieu et tout ça, et qui s'était constamment, depuis 12 ans, savait la pensée d'être rejetée de ce que Dieu l'avait comme rejeté, il y avait la malédiction qui était sur sa vie. Jésus est en train de lui dire non. Alléluia, non seulement t'es guéri, mais t'es pardonné. Va prendre le temps avec elle. Je nous dis que Jésus est celui qui va prendre le temps. Alors Jésus, dans la présence, lorsqu'on a cette rencontre, cela va être vrai avec d'autres personnes. Et on peut s'approcher de lui pour recevoir. J'aimerais nous dire ce matin, lorsqu'on s'approche de Dieu, n'allez pas seulement pour dire vos choses, mais allez pour recevoir. Des fois, on s'approche davantage de Dieu pour donner et on ne s'approche pas assez pour recevoir. Ces femmes-là, ces personnes-là vont s'approcher de Dieu pour recevoir. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est de permettre à Dieu de déverser dans ton cœur. Permettre à Dieu dans cette rencontre. Pourquoi? Parce que des fois, on prend un temps de prière, on dit tout ce qu'on veut que le Seigneur fasse, tous nos besoins, nos affaires, son agenda est plein pour la journée. Puis on part faire ce que nous autres, on a dans notre. La réalité, c'est qu'on a besoin des fois de permettre à Dieu de simplement, « Seigneur, je veux recevoir de toi aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de recevoir. Mon cœur est en attente, Seigneur, devant toi. Je veux recevoir. » Ces personnes-là qui se sont approchées de Jésus avaient un cœur pour recevoir. Cette femme-là qui est allée a dit, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je vais recevoir. Je vais être guéri. » Il y avait une attente de recevoir. Bien sûr, alléluia, on doit s'attendre de la part de Dieu que le Seigneur est celui qui veut le faire, que Dieu est celui qui veut déverser à l'intérieur de ma vie. Et Dieu est allé plus loin que son attente à elle, parce que son attente d'être guéri dans son corps, Jésus, alléluia, a été plus loin et a amené une guérison dans son âme, dans son être tout entier, afin de la changer et de la transformer elle-même. Apprenons, frères et sœurs, à être capables de recevoir, non pas à recevoir dans le sens de ce que je m'oblige, Seigneur, je veux juste que tu me donnes, mais Seigneur, parce que je veux que tu déverses dans mon cœur ce que tu veux déverser à l'intérieur de nos vies. Maintenant, qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous approcher de Dieu? Il y a plein de raisons pour lequel ce matin, on peut s'empêcher de s'approcher de Dieu. On peut des fois penser qu'on n'a pas le temps. On peut penser, alléluia, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'a pas encore les capacités, qu'il y a la foule qui est là. Cette femme-là aurait pu empêcher, aurait pu dire, « Ben, il y a une foule, j'essaierai d'aller le voir un autre moment. » C'était la journée, cette journée-là, le jour de salut. Je vais vous parler d'un homme dans la parole de Dieu qui tout avait été contre lui pour recevoir de Jésus-Christ, pour aller s'approcher de Jésus. Et cet homme, je vous ai parlé dans Marc chapitre 2, le verset 1. Ça dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes, encore une foule qui est là. C'était dur de rencontrer Jésus tout seul. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. C'était bloqué, là. C'était jump-packed, c'était, il n'y avait plus rien, plus personne ne pouvait passer, c'était pas arrivé de bonne heure pour te mettre dans le cadre de porte ou dans l'entour de la porte puis dans la maison. La maison est pleine, la porte est pleine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilité. Et dans le texte, ça dit à ce moment-là qu'il annonçait la parole. Jésus faisait ce qu'il devait faire. Jésus a accompli ce qu'il était en train d'accomplir, a influencé, d'avoir une rencontre avec les gens qui sont là. Et ça dit, des gens vinrent à lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Il y avait un paralytique qui était là, qui voulait que Jésus rencontre Jésus. Il y a la foule, il ne peut pas marcher, il est couché sous un lit, il y a quatre personnes. Ça dit, comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, ils ont monté sur le toit, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Cet homme-là a réussi, je ne sais pas s'il a encouragé les autres, peut-être probablement il doit avoir dit, les gars, échappez-moi pas, là. comme moi, c'est ce que je leur aurais dit. Arrangez-vous pas que le miracle soit plus grand après que je sois en bas qu'avant que j'arrive. Mais ça le fait que 4 hommes ont cru que c'était là, puis que cette journée-là, rien ne nous empêcherait que Jésus puisse avoir une rencontre avec cet homme-là. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma sœur, à l'intérieur de ta vie? Je me dis, ces hommes-là ont su être capables de faire tout ce qui était en leur pouvoir. Qu'est-ce qui peut m'empêcher dans ma vie? En même temps, je trouve ça ingénieux. Probablement que moi, j'aurais dit, quand je me serais arrivé là, peut-être que j'aurais dit, bien, c'est pas possible, une autre fois, puis on retourne chez nous. Les autres ont dit, non, il y a une façon. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je ne sais pas le propriétaire de la maison quand il a vu que le toit commençait à... Si j'aurais été le propriétaire, mettons que je n'aurais pas été super content, là. Peut-être plus content après avoir vu le miracle qu'avant, mais rien ne les a empêchés. Pas ce que les gens vont dire, pas ce que les gens vont penser. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose qui dernièrement a frappé ma pensée. Le « lit » ici, dans le mot grec, c'est le mot « grabatos ». Et le mot « grabatos », c'est pas un lit de reine, OK? C'est un grabat. C'est quoi un grabat? Une définition, c'est du grabat, c'est une paillasse, un grabat, un lit de quin, un lit plutôt simple, ne pouvant contenir qu'une personne, une civière, mais ça a l'idée de quelque chose qui est pas swell, ben. OK? Cet homme-là était couché sur ce lit-là. Je ne sais pas ce que ça sentait, je ne sais pas ce que ça se passait, mais cet homme-là, ils l'ont pas mis beau là, pour l'amener là. Ils l'ont pas changé, ils n'ont pas descendu un 54 pouces, là, avec les têtes de lit en marbre et tout ça, là. Ils ont descendu une civière, un lit, un grabat. Et c'est ce qui s'est retrouvé devant Jésus-Christ. Un paralytique qui était couché sur un grabat. Des fois, nous, on met tellement, tellement d'emphase sur ce qu'on a l'air, sur ce que ça a l'air. Puis là, je ne parle pas du veston, là. Mais je parle de la parure, de ce qu'on a l'air devant les gens. Mais cet homme-là, devant la foule, sur son lit, son grabat, va être descendu aux pieds de Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt à aller devant le Seigneur comme je suis aujourd'hui? C'est ce que Dieu te demande de toi, mon frère, ma sœur. Va pas demain dans ce que tu auras l'air demain. Va maintenant avec ce que tu es maintenant. Apprenons à être capable d'aller vers Jésus dans ce que l'on est aujourd'hui. D'apprendre à prendre du temps et de dire aujourd'hui, Seigneur, dans ce que je suis, dans mes problèmes, dans mes situations, dans mes bons temps, mes bons moments, Seigneur, dans mon grabat de vie, Seigneur, je vais être capable de me présenter devant toi. Je vais être capable, Seigneur, de me tenir en ta présence. Je vais être capable d'être vrai, Seigneur, dans ta présence. Je vais être capable de juste ouvrir mon cœur. Alléluia. D'être capable d'ouvrir mon cœur. Et dans la définition du dictionnaire, il y a la pensée qui dit un lit, un vieux lit, un mauvais lit qui était suspendu, qui était étroit. Et souvent même dans l'idée de grabat, il y a l'idée de quelque chose qui est sale, qui n'est pas propre. Probablement que vous ne seriez pas couché dans ce lit-là. On aurait probablement regardé s'il y avait des puces de lit. Parce que ce n'était pas quelque chose de super propre, beau, puis bien souhait. Mais c'est drôle que Jésus ne fait pas référence à ça. Que ce grabat-là, savez-vous quoi, a été simplement l'outil pour l'amener jusqu'à Jésus. Ça a été simplement l'outil pour l'amener jusqu'au Seigneur. Jésus ne fait pas référence à l'outil d'abord, mais plutôt à l'homme qui se présente devant lui. Et encore là, Jésus va s'adresser à cet homme devant cette foule qui est là au point tel où ça va faire un débat, où Jésus, avant même de le guérir, va dire « tes péchés te sont pardonnés ». Puis là, il y a tout un débat qui s'élève de qui peut être pardonné, puis y es-tu capable, puis si c'est un blasphémateur, Jésus, parce qu'il parle de pardon. Et là, il y a toute une dimension encore de questionnement, de choses qui prend place. Des fois, les disciples vont dire « c'est à cause, pas dans ce texte-là, mais ça va dire « c'est-tu à cause de lui qui a péché ou c'est ses parents, c'est qui ?» Jésus va dire à ce moment-là, alléluia, que ce n'est pas à cause de l'un ou de l'autre, mais parce que tous on est pécheurs.
puis qu'on a besoin de cette rencontre avec Dieu. Vous savez, frère, on a besoin de le recevoir avec joie. De juste apprendre à accepter et recevoir avec joie. Ça dit dans Luc chapitre 19, 6, quand ça parle de Zachée, ça dit « Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie ». Est-ce que vous êtes joyeux de prendre un temps de prière ou c'est une corvée? Peut-être parce que des fois, on ne voit pas bien les choses. Peut-être parce que des fois, ce n'est pas facile non plus. C'est vrai que la prière, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours facile. C'est peut-être pas même toujours facile de venir à l'église, de prier avec un frère, une sœur. Mais on a besoin de le recevoir avec joie, d'être capable d'être béni, de recevoir avec joie et de rester, être capable de le recevoir et de rester. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Comment ce matin, j'aimerais vous poser la question. Quelle est ta dernière rencontre vraiment significative avec Jésus? Quelle est vraiment ta dernière rencontre qui est significative avec le Seigneur? Est-ce qu'on a besoin de s'approcher de Dieu régulièrement? Le psalmiste va dire dans Psaume 73, 28, ça dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Si tu veux raconter les œuvres de Dieu, on a besoin d'aller à la rencontre de Dieu. On a besoin d'avoir cette intimité, cette communion, cette relation avec Dieu. Et le texte, quand ça dit « c'est mon bien », c'est que c'est agréable, c'est plaisant. On a besoin d'être toujours auprès du Seigneur. Nos rencontres avec Dieu, et là, je ne parle pas d'émotions, de sentiments, mais de notre vie avec le Seigneur. Dans Psaume 23, 6, le psalmiste dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il y a toutes sortes de façons, on peut s'approcher de Dieu dans la prière. Est-ce que ça vous arrive des fois que vous priez puis vous avez l'impression que votre prière ne monte pas plus haut que le plafond? Puis tu dis, « Seigneur, ça me donne quoi de prier? » Il me semble que ça ne monte pas plus haut que le plafond. Est-ce que ça vous arrive? Alors, je ne suis pas tout seul, c'est ça que vous voulez dire? Vous me faites du bien à matin. Okay? Je pensais que j'étais tout seul dans tout ça. Dernièrement, j'ai réalisé que ma prière, on peut juste jouer quelque chose ce matin. Dernier chant, de juste jouer doucement au piano. J'ai réalisé quelque chose dernièrement, que ma prière n'a pas besoin de monter plus haut que le plafond. Ça, c'est juste ma pensée à moi. Mais que ma prière n'a pas besoin de monter plus haut. Des fois, on a l'impression qu'on prie puis que ça ne monte pas plus haut, on ne ressent pas, c'est pas. Vous savez, ceci, la Bible ne dit pas qu'elle a besoin de monter plus haut que le plafond. Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » J'espère que c'est le Dieu qu'on prie. « Notre Père, frères et sœurs, qui est là, le texte dit, qui est là dans le lieu secret. » Je n'ai pas besoin que ça monte plus haut, j'ai juste besoin que ça s'entende dans la chambre. Et le texte dit ceci, alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Seigneur, j'ai juste besoin que tu sois là. J'ai pas besoin que ma prière monte très haut. J'ai pas besoin, Seigneur, que j'ai l'impression que ma prière va changer tout plein d'affaires. J'ai juste l'impression d'avoir la foi que tu es avec moi. Vous savez ceci, je réalise que des fois dans ma vie, j'ai prié pour des choses que j'avais de la difficulté à croire que Dieu va entreprendre. Mais que dans ce moment-là, j'ai besoin de croire que Dieu va le faire. Mais j'ai d'abord et avant tout besoin de croire que Dieu est avec moi dans ce lieu-là. J'ai besoin d'avoir la foi que Dieu m'entend parce que Dieu est présent dans cette chambre avec moi. Quand dans ce moment de solitude, alléluia, quand dans le moment de solitude qui était là, que Dieu entendait. Je me rappelle lorsqu'on était j'étais un jeune garçon adolescent et un jeune garçon. Mon père, dans nos chambres, c'était nos chambres qui étaient en haut, montait dans l'une de nos chambres et allait prier, prendre un moment de prière. Et je me rappelle dans une situation particulière dans laquelle il était, on était à la maison, il y avait un besoin pour l'église. Il a dit, je me rappelle à la maison après souper, il a dit, je vais aller en haut, je vais juste aller prier pour que le Seigneur puisse entreprendre. Et quand il est redescendu en bas,
il a dit, alléluia, ce qu'il était pour arriver, avant même que les choses arrivent. Et les choses sont arrivées, il a déclaré devant nous, et les choses sont arrivées comme Dieu avait déclaré. Et quand j'ai relu ce texte-là dernièrement, je me suis rappelé, alléluia, que Dieu était là avec lui. Que Dieu y avait une rencontre avec le Seigneur. Le texte dit, alléluia, à leurs frères et sœurs, n'ayez pas l'impression que les choses, que votre prière ne monte plus, n'ayez plus cette pensée-là que votre prière ne va pas plus haut que le plafond. Mais commençons à croire que Dieu est avec nous, que lorsque tu pries pour tes enfants, que Dieu est là avec toi dans ta chambre pour entendre ta prière, que lorsque tu pries pour ton couple, que Dieu est là dans ta chambre avec toi, que lorsque tu pries pour une délivrance dans ta vie, alléluia, que Dieu est là avec toi dans ta chambre, que lorsque tu es là, alléluia, dans ton salon à prier, à intercéder pour l'Église, pour une situation, pour un besoin dans ton corps, pour la guérison dans ton corps, commence simplement à avoir la foi pour croire, alléluia, que Dieu t'entend, que c'est peut-être pas, t'as l'impression que ta prière s'élève tout au bord des murs puis du plafond, mais crois que Dieu est celui qui t'entend. Parce que Dieu est là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Prie ce Père-là dans ce lieu secret. C'est un moment avec Dieu. C'est une rencontre avec Dieu. Te laisser les choses de côté, que ce soit dans le jeûne, dans la prière, pour un moment avec Dieu. Et il n'y a pas de plus précieux moment. Parce que, alléluia, là, je vais mentionner le mot chambre, mais c'est tout endroit. Si tu es prêt à marcher jusqu'à ta chambre, qui n'est pas loin de où tu es, de ta cuisine, de ton salon à ta chambre, il y a une vingtaine de pas. Puis 40 pas, c'est ta maison est grande. Mais je veux dire ceci. Si tu es prêt à faire ces quelques pas de ton salon jusqu'à ta chambre, Dieu est prêt, alléluia, à faire quelques pas du ciel jusqu'à ta chambre. Et je dis, mon frère, ma sœur, qu'on a besoin des gens autour de nous. On a besoin des gens comme Dr. Sylvain, on a besoin des gens qui servent, on a besoin des personnes qui nous entourent. Mais souvent, la seule chose qui va faire toute la différence, c'est ta rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec Jésus. Et ça fait peut-être trop longtemps. Ce matin, j'espère, tu es ici, je suis tellement heureux de te voir, qui que vous soyez, des visiteurs ou autres. Je dis souvent, il n'y a pas de plus grande joie dans mon cœur. Ce n'est pas une présence de plus. Ce n'est pas un chiffre de plus. Mais de vous voir, il y a tellement de joie dans mon cœur. Mais peut-être qu'on est ici parce que quelqu'un nous a invités. Peut-être parce que ton épouse t'a réveillé un matin. Peut-être parce que ton époux a dit, on va à la maison, on va à l'église aujourd'hui. Peut-être que tu es ici parce que c'est dimanche. Puis dimanche, on va à l'église. Je pense que la meilleure façon de venir, c'est de venir en disant, Jésus, aujourd'hui, je veux une rencontre avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux un moment avec toi. Je veux une intimité avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre un temps dans ta présence. Je veux aller à l'église parce que je veux avoir une intimité dans cette foule. Et je vais vous dire ceci, ma pensée est celle-ci. Seigneur, dimanche matin, il y a 100, 150, 180 des fois personnes. Il faut un peu plus. Seigneur, dans cette foule, je veux entendre mon nom, Seigneur. Je veux que tu me parles à moi. Je veux que tu te révèles à moi, Seigneur. Et vous savez, la beauté de la chose, c'est que Dieu veut le faire par son Esprit Saint. S'adresser à chacun de nous. Que si tu viens, alléluia, si tu es prêt à t'approcher de lui, il va faire tous les pas pour t'amener, t'aller et de prendre du temps avec. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta fidélité, pour le privilège qu'on a de prendre ce moment, un temps avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, on réalise l'importance, le besoin que l'on prenne ce moment, cette intimité avec toi, Seigneur, de s'arrêter et de savoir que tu es avec nous, Seigneur, dans ce lieu ce matin, que tu es présent dans nos vies aujourd'hui, que tu es le Dieu, alléluia, qui est là dans notre lieu secret. Aujourd'hui, dans le secret de nos cœurs, de nos vies, tu es présent, ô Jésus, ce matin. Tu es le Dieu qui est là, qui entend Et Seigneur, la parole de Dieu nous dit, alléluia, que dans ce lieu secret, tu nous entendras et tu nous le rendras, Seigneur. Tu parleras à nos cœurs. Combien de fois, oh Dieu, j'ai prié, j'ai eu l'impression, Seigneur, que ma prière n'allait pas plus haut que le plafond. Et Seigneur, combien de fois le diable veut nous décourager à travers cette pensée. Et Seigneur, ton esprit, ta parole nous encourage aujourd'hui, alléluia, dans la dimension que ce n'est pas la hauteur. Seigneur, mais plutôt le fait où je vais prendre un temps avec toi. Que Seigneur, je veux m'arrêter, je veux m'approcher. Et au moment où je suis près de toi, ma prière n'a pas besoin de faire une dimension bien loin. Seigneur, parce que tu es là à mes côtés. Frères et sœurs, je veux faire quelque chose ce matin. On va se tenir debout ensemble. On va terminer comme ça aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens loin du Seigneur. Peut-être que tu as l'impression d'être couché sur un grabat aujourd'hui. Tu as l'impression que dans ta vie, tu es couché sur un grabat aujourd'hui. Mais je veux te dire que le Seigneur veut s'adresser à qui tu es. Que ta prière, que qui tu es, alléluia. Peut-être que tu as besoin de défaire le toit pour juste descendre, te laisser descendre jusqu'en bas. De permettre à Dieu d'accomplir et de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Si c'est le cas, j'aimerais juste que là où tu es, tu puisses, juste dans ton cœur, si tu veux lever la main, tu peux le faire. Si tu veux lever les mains devant le Seigneur, tu peux le faire ce matin. Juste dans ton cœur, déclarer à Dieu que le Seigneur puisse, alléluia, toucher ta vie. Avoir cette rencontre avec lui. Seigneur, ces gens qui se sont dans leur cœur ont levé. Seigneur, sont tenus, sont allés jusqu'à toi, comme cette femme avec cette paire de ciseaux. Juste toutes les gens, Seigneur, qui dans ce lieu se sont tenus, Seigneur, sont allés jusqu'au sycomore et qui ont monté dans cet arbre. Seigneur, toutes ces gens qui ont voulu être descendus, ont défait le toit pour descendre jusqu'en bas, Seigneur. Chacune de ces personnes aujourd'hui, je prie, oh Dieu, alléluia, qu'il y ait cette rencontre avec toi. Je prie que le miracle prenne place. Je prie pour cette intimité dans leur vie. Et Seigneur, donne-leur de comprendre qu'avec cette prière, avec la prière, Seigneur, tu es là, présent dans le secret de leur vie, de leur cœur. Merci de savoir, de connaître, Seigneur, l'homme et la femme, comme l'Évangile de Jean nous a dit, Seigneur, tantôt. Merci de savoir qui on est, de connaître, Seigneur, qui on est, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser. Seigneur, on peut être devant toi aujourd'hui. Alors, Seigneur, on se recommande à toi et on te dit merci pour toutes choses que tu accomplis. Seigneur, apprends-nous à avoir une rencontre régulièrement, je dirais quotidiennement, avec toi. Parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu connais chaque personne ce matin, tu connais qui ils sont. Et alors, Seigneur, que cette prédication-là, cette parole-là, ce matin puisse résonner dans nos cœurs et dans nos âmes pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Seigneur, rappelle-nous que quand le diable, alléluia, voudra nous éloigner, il est peut-être, Seigneur, le temps de comprendre qu'on a besoin de monter dans le sycomore, qu'on a besoin, Seigneur, d'aller toucher le bord de ton vêtement, qu'on a besoin, Seigneur, sur notre grabat, d'être capable de juste aller se retrouver devant toi, Seigneur, et de permettre. Dieu, tu connais. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, tu te sens indigne d'une rencontre avec moi. Et le Seigneur veut dire, alléluia, qu'il désire vivement cette rencontre, qu'il est celui qui l'attend. Que tu viennes vers lui. Que ça fait un certain temps que Dieu attend que tu viennes vers lui, que tu sois prête à déposer, à déployer tout ce que tu es. Pas juste une portion. Et tout ce que tu es, de bien, de moins bien, tout ce qui peut prendre place. De juste réaliser, alléluia, qu'il est le Dieu qui t'accueille. Celui qui veut toucher ta vie, qui veut changer ta vie. Et que de cette rencontre avec lui, tu donneras de juste être qui tu es, tu lui permettras d'entrer dans des sphères de ta vie que tu as gardées avec retenue jusqu'à maintenant. Et que le Seigneur désire que tu te livres avec entièreté dans tout ce que tu es Et le Seigneur Jésus veut te dire ce matin qu'il t'invite à cela, qu'il attend cela, que tu le fasses. Alors, vas-y, mon frère, aujourd'hui. Ma sœur, vas-y. Celui à qui ça s'adresse, vas-y. Approche-toi, livre-toi en pleine main et entièrement, dans ce qui est le plus secret de ta vie, au Seigneur. Et il est celui, alléluia, qu'à travers cette rencontre, fera une œuvre dans ta vie. Seigneur, on veut se recommander à toi durant le restant de cette journée. Sois avec nous. Seigneur, que ta bonne main puisse bénir et apprendre-nous, Seigneur, à te rencontrer, à demeurer avec toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Et amen. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.